Ami. Le podcast Guillaume Richardot, Franck Lefebvre.
Dang, dong.
Hello, quel joli carillon que celui de Franck Lefebvre. Comment vas-tu, mon cher Franck?
Ça va super, cher Guillaume, et toi?
Eh bien, écoute, je vais très, très bien. Je suis en grande forme. Et pour notre causerie du jour, j'avais envie de poser sur la table trois lettres dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans les émissions sur les nouvelles technologies et même dans d'autres médias d'ailleurs. C'est la lettre D, la lettre S et la lettre A, le DSA, le Digital Service Act. Pourtant, c'est européen, mais bon, évidemment, on cause anglais en Europe. Et je voulais te parler du DSA parce que, en deux lignes, pour ceux qui auraient passé la semaine dans une grotte, le DSA, c'est une loi européenne qui, ça y est entrée en vigueur et qui oblige les GAFAM à s'ouvrir à leurs concurrents. C'est-à-dire, je prends l'exemple le plus connu, c'est par exemple Apple. Bah, quand vous êtes sur iPhone, vous ne pouvez télécharger une application que si vous passez par le magasin d'applications d'Apple, l'Apple Store. Eh bien, depuis la mise en vigueur de la loi de ce fameux DSA, les concurrents vont pouvoir arriver, des plateformes de jeux vidéo ou d'autres vont pouvoir ouvrir sur un téléphone Apple des magasins pour télécharger des applis, et il se murmure même qu'on pourra télécharger certaines applis directement de son navigateur en direct sur le téléphone. Alors dans le DSA, il y a aussi l'obligation à Apple de permettre l'arrivée d'autres navigateurs, des concurrents de Safari, bref, et puis un petit peu la même chose chez Google, mais ça se verra moins chez Google que chez Apple. Alors, bon, voilà, ça c'est la présentation. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un petit peu comme si on obligeait Peugeot à pouvoir mettre des routes Volvo sur sa voiture, si tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est très certainement, c'est comparable. Et d'ailleurs, on peut poursuivre la métaphore comme ça. Est-ce que c'est pas une bonne idée de demander à Peugeot de pouvoir mettre des roues de Renault sur ses voitures. Si on parle de libre concurrence, si on parle de réduction des empreintes écologiques, si on parle de bénéfices clients, si on parle de pérennité du produit, c'est-à-dire que cette interopérabilité, en vrai, elle profite beaucoup aux clients, elle profite beaucoup à la planète. Celui à qui elle profite un peu moins, c'est à la réduction du secteur concurrentiel, de la production de ses services et de ses produits. Donc moi, qui suis pourtant un grand libéral, je pense que ces choses-là sont assez... Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, tu sais que je ne sais pas si tu connais, si nos auditeurs savent comment on fait pour mettre une application disponible sur l'App Store d'Apple ou sur le Google Play d'Android. Ben, les gens qui développent ces applications, les entreprises qui développent ces applications, créent les applications, elles les testent sur les téléphones sur des téléphones de test, et puis une fois que tout est prêt à bien fonctionner, eh bien, elles les soumettent à ces plateformes. Donc, elles vont aller sur la plateforme Apple, elles vont dire, tiens, j'ai mon application, elle est prête, je voudrais la publier sur le store. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'application fait l'objet d'une vérification très, très, très poussée par les services d'Apple. Hein. Et d'ailleurs, Apple a longtemps expliqué que c'était quelque chose qui lui coûtait extrêmement cher. Apple a toujours expliqué que c'était pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi et que c'était au bénéfice du client. Après, dans les inspections qu'ils font, il y a des inspections qui vont bien au-delà des inspections techniques, et entre autres beaucoup d'inspections qui sont liées au fait qu'ils sont sûrs que le respect de leurs propres règles et des règles qui peuvent changer et qui changent régulièrement. Leur but, c'est d'assurer que leurs règles sont bien respectées. Donc, je vais te donner des exemples. Par exemple, Il y a des règles concernant la vente de produits de services additionnels dans les applications. Et là, on arrive directement sur le modèle économique de ces plateformes, puisque comme un des modèles économiques d'Apple est de gagner de l'argent sur le commerce qui se fait à partir de ces applications, eh bien, quand ils vont regarder les applications, ils vont bien faire attention à ce que l'application ne propose pas aux clients de faire du business en direct et donc du business qui ne viendrait pas profiter à Apple. Tu me suis toujours ?
Voilà, alors c'est ça qui va changer avec le DSA, parce qu'avec le DSA, quand tu vas avoir installé une application sur un iPhone, tu vas pouvoir, par l'application, acheter des choses, ce que tu ne pouvais pas faire avant, puisqu'avant, Apple t'obligeait de passer par le magasin Apple. Par exemple, je te prends un exemple tout bête, c'est ce qui fait râler Spotify, enfin ce qui faisait râler Spotify, c'est que si tu voulais t'abonner à Spotify sur un iPhone, eh bien, tu étais obligé de passer ou par le magasin d'Apple ou aller t'abonner ailleurs que sur ton iPhone. Tu pouvais installer l'appli, mais tu pouvais pas t'abonner. Avec le DSA, tu vas pouvoir installer ton appli Spotify et t'abonner directement à Spotify depuis l'appli Spotify que tu as installée sur ton téléphone.
Absolument, absolument. Et donc, mon anecdote, il y a une dizaine d'années environ, j'avais fait travailler un cabinet d'avocats sur ce sujet précisément, en leur disant, tiens, voilà, imaginons que demain je veuille mettre sur l'App Store une application qui ne respecte pas strictement les règles d'Apple. Donc, rappelons que quand on parle de respecter strictement les règles d'Apple, ce sont des règles qui évoluent au cours du temps, qui sont des règles qui sont pas tout à fait formelles. Hein. Et donc ce cabinet d'avocats avait sorti quelque chose de très intéressant. En utilisant la réglementation européenne, donc je te dis, c'est assez vieux, hein, c'est une dizaine d'années, il avait établi que si jamais on décidait d'aller devant un tribunal, Apple serait obligé soit d'autoriser des magasins d'applications tiers, soit d'autoriser leurs utilisateurs à jailbreaker les téléphones de façon officielle, en tout cas, que le jailbreaking, donc on peut rappeler hein, ce que ça veut dire jailbreaker pour nos éditeurs, c'est une manipulation un peu technique qui consiste à modifier le téléphone pour que le téléphone ne soit plus soumise aux restrictions qui sont imposées par le fabricant de la plateforme. Donc là, par exemple, hein, jailbreaker un téléphone, ça permet d'installer des applications qui sont pas des applications qui ont été approuvées par Apple. Donc, je reviens sur le travail qui avait été fait par ce cabinet d'avocats. Il disait soit Apple doit autoriser des gens à ouvrir des magasins d'applications tiers de façon à ce qu'il y ait une certaine liberté d'utilisation, soit l'utilisateur doit avoir le droit de jailbreaker son téléphone sans que celui-ci fasse tomber la garantie du téléphone, ce qui est toujours le couperet utilisé par Apple pour éviter ça, puisque bien entendu, eux n'ont pas envie que l'on contourne leurs propres règles. Donc, c'est intéressant parce que aujourd'hui, le sujet revient au bout du jour avec à peu près les mêmes arguments. Et donc, l'argument de fond de tout ça, c'est que quand tu achètes un téléphone, ben ce téléphone, il t'appartient. Et donc, dès lors que tu ne contreviens pas à une réglementation, tu as le droit de faire ce que tu veux de cet appareil puisqu'il t'appartient. Et ça n'existe pas que dans la téléphonie, ça existe pour tout. Si tu achètes une voiture, tu as parfaitement le droit de mettre des housses de siège dans cette voiture. Tu as le droit de repeindre cette voiture. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Donc, quand je dis tout ce que tu veux, sauf ce qui contreviendrait à la réglementation, ce serait dans l'exemple d'une voiture ou d'un téléphone, ce serait de modifier l'appareil sur des sujets sur lesquels il fait l'objet d'une homologation. Donc, reprenons l'exemple de la voiture. Si tu veux mettre des roues d'un diamètre différent des roues qui sont à l'origine montées sur ta voiture, eh ben, tu pourras pas. À vrai dire, tu pourras, mais à ce moment-là, tu devras refaire homologuer cette fonction-là. C'est ce qu'on a longtemps appelé le passage aux mines, tu sais, pour les véhicules, et qui fait que des gens qui modifient des fonctions sujettes à homologation sur leur véhicule sont obligés de refaire homologuer cette fonction auprès des services de l'État qui s'appellent pas les mines, qui s'appellent le CNRV. Donc, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, on a une loi qui arrive et qui me semble vaguement faire la même chose qu'avant. Hein. En ce qui concerne les navigateurs, souvenons-nous des procès antitrust ou des procès qui avaient été faits à l'époque d'Internet Explorer et qui faisaient que Microsoft avait été obligé par la loi américaine d'autoriser l'installation d'autres navigateurs. Ils n'avaient même pas le droit de favoriser leurs navigateurs, puisque à ce moment-là, ils venaient contrevenir aux lois antitrust. Eh ben, tout ça me semble un peu du réchauffé. Il y a un truc, par contre.
Oui, d'ailleurs, je te fais une petite parenthèse. C'est rigolo. Tu parlais du navigateur de Microsoft. Eh ben là, Apple est obligé de faire la même chose. C'est-à-dire que si vous faites la dernière mise à jour de iOS qui permettre de mettre en œuvre le DSA, oblige d'ailleurs à mettre en œuvre le DSA. Quand vous allez ouvrir votre navigateur Safari, vous allez avoir un pop-up qui va vous dire « Attention, si tu veux surfer, maintenant tu peux choisir tel ou tel navigateur », comme à l'époque de Microsoft qui était obligé de ne pas imposer Internet Explorer.
Eh ben ouais, cher Guillaume. Donc j'ai l'impression qu'on ne fait que retourner un petit peu vers le passé, qu'il y a rien de vraiment nouveau là-dessus. Donc à vrai dire, il y a un truc qui est super nouveau, c'est que même si les outils réglementaires existaient déjà, puisque moi la suite de mon anecdote là, tu aurais pu me demander, ben voilà, ton cabinet d'avocat il t'avait offert une espèce de bombe qui te permettait d'aller te battre, mais t'imagines bien que aller se battre contre Apple, c'est quelque chose de très 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 compliqué
et très très cher et très très très
long et très très, c'est-à-dire que personne le fait. Et donc ce qui est vraiment nouveau là, c'est que la Commission européenne est toujours, au nom de la libre concurrence et du respect des intérêts des consommateurs, a pris son courage à deux mains. Et donc ça, j'applaudis complètement. Donc pour répondre à ta question, la réglementation en la matière, bon, c'est peut-être bien de l'apprécier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de révolution sur le sujet. Par contre, la mise en application, et on peut citer un exemple qui vient de défrayer la chronique, qui est Apple, qui a été condamné à 1,8 milliard d'amendes pour des pratiques qui empêchaient Spotify de faire ce qu'ils voulaient avec les iPhones et leurs plateformes. Et ça, je dois avouer que ça me fait plutôt plaisir. Et d'ailleurs, pour les plus passionnés d'entre vous, vous aurez peut-être lu la réponse à Apple suite à ça, donc ils ont fait un communiqué de presse énorme dans lequel ils expliquent que c'est honteux, que c'est eux qu'on fait Spotify, que c'est eux qui ont permis de libéraliser la musique, quoi, la diffusion de la musique sur Internet, etc., etc. C'est à mon avis un exemple extraordinaire à garder dans les annales de ce qu'une boîte qui a d'énormes avocats et d'énormes moyens pour les payer peut faire comme document de totale mauvaise foi qui ne fait, à mon avis, que démontrer que la position est vraiment pas défendable.
Bon, mais est-ce que tu penses, toi, qui es quand même un créateur de choses numériques, que ça va aider des sociétés de moyenne taille ou de petite taille à pouvoir positionner leurs applications sur un iPhone, par exemple, du coup?
Ça, c'est la question à 2 milliards de dollars. Je suis sûr que je ne vois pas comment ça pourrait être plus compliqué. Ça ne pourrait pas, tu sais, hein, c'est comme la règle d'or du médecin, hein, c'est tout d'abord ne pas nuire. Donc, je pense que là, cette règle-là, elle est respectée et elle me semble être peu nuisible. Et puis, ça, c'est une ouverture franche. Je te dis surtout par le côté amende et par le côté gendarme qui est là pour que la loi soit respectée. Ça me semble être une ouverture franche vers un peu plus de saine concurrence et un peu plus d'ouverture de ces machines-là. Sur ces sujets-là, mais sur plein d'autres. Tu sais, on pourrait en citer d'autres comme toutes les fonctions qui existent dans les téléphones et qu'aujourd'hui les créateurs de ces plateformes sont les seuls à s'autoriser l'accès. Aujourd'hui, on sait bien qu'il existe plein de fonctions dans un iPhone que un développeur d'application classique normale ne peut pas utiliser et dont Apple se réserve l'utilisation. Et à mon sens, ça, c'est une pratique complètement anticoncurrentielle. Donc, si les choses continuent à évoluer dans ce sens-là, on peut imaginer que demain, si un développeur d'application veut utiliser une fonction qui jusqu'à maintenant n'est pas ouverte au reste des opérateurs, eh bien, il pourra dire, Monsieur Apple, vous êtes gentil, vous m'ouvrez à l'usage de cette fonction. Sinon, je vais aller voir mes amis à la Commission européenne et vous allez vous faire taper sur les doigts.
Oui, tout à fait. Je te prendrai juste un petit exemple pour illustrer ce que tu viens de dire. À une époque, à l'époque de Cortana, qui est morte depuis, on pouvait installer une appli Cortana sur l'iPhone. Mais en fait, tu pouvais pratiquement rien faire avec l'appli Cortana parce qu'elle avait accès à rien dans l'iPhone. Tu pouvais pas appeler quelqu'un alors qu'avec Siri, tu pouvais le faire. Tu pouvais pas lui demander de te lire un mail alors que Siri pouvait le faire. Ce qui aura peut-être changé aujourd'hui avec le DSA. Maintenant, si demain, tu veux monter une appli d'assistant vocal sur un iPhone, tu auras peut-être plus d'autonomie par rapport à ce que tu peux faire dans le téléphone.
C'est bien ce dont nous parlons. Tout à fait d'accord.
Bon ben voilà, ben je vais me mettre à développer alors.
Parce que faut préciser quand même que beaucoup des choses sur ce sujet, là tu citais tu donnais comme exemple les fonctions que Siri pouvait utiliser que d'autres assistants vocaux ne pouvaient pas utiliser sur un iPhone, et il y a énormément de fonctions comme ça, et donc il y a toujours un jeu de chat et la souris dans lequel quand il y a une demande d'ouverture qui est faite, eh ben, entre les délais, entre les process, entre tout ça prend un temps énorme. Et donc, les choses bougent pas vite du tout parce que les entreprises qui dirigent ces plateformes font l'obstruction de façon systématique. Donc, on peut imaginer que ça sera peut-être la première action, la prochaine action à proposer à la Commission européenne, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des demandes à posteriori, mais qu'il y ait a priori des demandes très claires en disant voilà, si jamais nous sommes amenés à revenir vous voir parce que vous avez fait quelque chose qui ne correspondait pas à la réglementation, à ce moment-là, on vous tape fortement sur les doigts, tu vois, de manière à ce qu'on soit pas dans ce truc où chacun attend l'autre et les choses ne peuvent pas avancer. Je voudrais citer un dernier exemple sur ce sujet qui est un exemple très intéressant, qui est celui des PWA. Ça te dit quelque chose, les PWA?
Ah, écoute, pas du tout.
Les PWA, c'est ce qu'on appelle les Progressive Web Apps. L'idée des Progressive Web Apps...
ça y est, je crois que je vois ce que c'est. C'est une app que quand tu l'ouvres, tu as l'impression que c'est une app, mais en fait, ça passe par le navigateur.
Exactement. Ce sont des petites applications qui tournent dans ton navigateur. Ce sont des espèces, imagine, ça ressemble donc à une application web, mais dont une partie va pas rester sur le serveur sur lequel tu vas. Je sais pas, imagine, tu vas sur Arte TV. Eh ben, tu vas aller sur Arte TV, et là, Arte TV, sur le site de Arte TV, et Arte TV va pouvoir te proposer d'installer sur ton téléphone un petit morceau de site web qui ne sera plus chez eux, mais qui sera chez toi et qui pourra fonctionner même quand tu n'es pas online. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir des applications très légères, et comme ça tourne sur le navigateur, eh ben ça permet de faire en sorte que l'application dépende beaucoup moins de ton téléphone. Ce qui veut dire que en théorie, une PWA qui fonctionne sur un iPhone va également fonctionner sur un téléphone Android. Donc, pour les clients, c'est quelque chose de formidable parce que ce sont des choses qui sont beaucoup plus légères. C'est beaucoup plus léger que des applications. C'est facile à installer. C'est facile à désinstaller et ainsi de suite. Pour les développeurs d'applications et les fournisseurs de services, c'est beaucoup plus facile à développer. On n'a plus à prendre en compte ou en tout cas beaucoup moins les spécificités de chacun des téléphones. Par contre, pour le fournisseur de la plateforme, pour Monsieur Apple ou pour Monsieur Android, ben c'est plus ennuyeux parce que l'application ne passe plus par leur fourche codine. Ce qui veut dire que, alors qu'il y a plein de choses qui poussent vers le développement important des PWA, eh ben on a, et en particulier Apple sur son iPhone a été très fort pour faire ça, hein, toujours en faisant en sorte que leur navigateur soit pas tout à fait bien compatible. Ce qui fait qu'on y est presque, mais on n'y est pas tout à fait. Et donc on dit, ah ben attendez, la prochaine version, ça va s'améliorer, la prochaine version, ça va s'améliorer. Sauf que la conséquence, c'est que les progressives web apps se développent extrêmement peu aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui, pour l'ensemble des acteurs, à savoir les clients, les fournisseurs de services, les développeurs d'applications, est quelque chose d'extraordinaire.
Et alors, si j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, tu me diras si je suis un bon élève et tu me mettras une note comme à l'époque des fans, comme à l'époque de l'école des fans. Donc, du coup, avec le DSA, comme sur la plateforme Apple, on va pouvoir installer le navigateur qu'on veut. Eh bien, il y a sûrement des navigateurs malins qui vont être très compatibles avec les petites applis dont tu viens de parler, qui vivent dans le navigateur. Et ça va bien embêter Apple, mais ça va rendre service aux consommateurs comme toi et moi.
Eh bien, vous avez tout compris une fois de plus, mon cher Guillaume.
Eh bien, écoute, Franck, c'était absolument passionnant parce que une fois de plus, j'ai appris plein de trucs et c'était bien chouette. Et en plus, c'était quand même utile de parler du Digital Service Act qui, ça y est officiel, est entré en action. Mettez à jour vos téléphones, aussi bien Apple que Android, pour profiter de tous les bénéfices. Et puis surtout, soyez curieux, comme ça vous verrez quelques petites nouveautés qui vont vous aider ou qui vont peut-être vous agacer aussi. Ça, on verra, on en reparlera. Mon cher Franck, merci une fois de plus d'être venu te poser dans le podcast de Tech Radio. Je vous le rappelle, il s'appelle Ami le podcast. Laissez-nous des commentaires, des notes, des bonnes notes si possible. Et puis des commentaires audio au 01 76 21 18 10. Et nous, eh bien, avec grand plaisir, nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles causeries.
Ami, le podcast 01 76 21 18 10. Si vous voulez commenter l'infotech.